France Inter, le 6-9 du week-end.
La main verte, Alain Baraton nous a rejoint. Bienvenue Alain.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia et bonjour,
bonjour
à tous. Une jolie phrase sur la nature.
Il y avait André Monroy là.
Voilà. Et ce matin, Jules Renard qui écrivait « Papillon, ce billet doux plié cherche une adresse de fleurs ».
Oh, c'est magnifique. Vous me rappelez un petit peu Alphonse Allais quand il répond justement à je ne sais plus quel ami où il dit « Excusez-moi d'avoir tardé à répondre à votre lettre, mais quand elle est arrivée, j'étais au fond du jardin ».
Il est souvent intéressant, Alain, de connaître l'origine du nom de certaines plantes.
Eh oui, car cela peut donner de précieux renseignements sur une célébrité disparue ou une région du monde, comme avec ce conifère connu sous l'appellation de « désespoir des singes ». Les scientifiques, eux, le nomment Araucaria araucana ou encore imbricata ou encore Araucaria du Chili. Dans ce pays, l'arbre est si populaire qu'il en est même devenu le symbole.
À quoi ressemble-t-il ?
Alors, c'est un très grand conifère qui peut atteindre à l'âge adulte et dans son pays 35 à 40 mètres de hauteur. Son espérance de vie est importante et certains spécimens seraient âgés de 2000 ans. L'Araucaria du Chili est très facilement reconnaissable. Même vous, Pierre, vous êtes capable de le reconnaître à son port très architecturé et son tronc et ses branches couvertes de grosses épines disposées en écailles, d'où son surnom de désespoir des singes. Aucun primate ne pourra y grimper.
De loin, on dirait presque une plante grasse, non ?
Oui, tout à fait. Il y a un côté très géographique. Mmh. C'est très particulier comme végétal.
Alain, c'est quand même étrange d'avoir appelé ainsi un arbre quand on sait qu'il n'y a pas de singe au Chili.
Oui, mais c'est une appellation typiquement européenne. Son vrai nom, Araucaria, a pour origine le mot araucan, qui désigne une population indienne de cette région du monde, l'Araucanie.
Et depuis quand est-il possible d'en voir en France ?
La date est précise. L'Araucaria du Chili est découvert en 1780 par Don Francisco de Dariana, un Espagnol. Celui-ci a pour mission de parcourir l'Amérique du Sud et trouver pour son pays les arbres les plus remarquables en vue d'exploiter le bois, en particulier pour la construction des bateaux. Alors s'il est le premier européen à décrire l'Araucaria, c'est le botaniste Archibald Menzies qui va l'introduire en Angleterre. Après avoir reçu des graines en cadeau, il les fait parvenir en 1795 à son homologue Joseph Banks, un savant à qui l'on doit aussi l'introduction sur le continent de l'eucalyptus.
Et sans attendre, les graines sont mises en culture.
Et l'une d'elles va germer dans des serres bien protégées du bec des oiseaux, des incisives des rongeurs et du froid. En 1806, le petit végétal est installé dans le parc et il vivra jusqu'en 1893. Entre-temps, un autre scientifique du nom de William Loeb va cultiver en nombre l'Araucaria et c'est à lui que l'on doit depuis 1844 d'en voir un peu partout en Europe. Alors, sachez que l'un des plus vieux de France vit dans le parc de Bagatelle à Paris. Il a été planté en 1907 et celle qui en parle le mieux est Françoise Hardy dans son autobiographie parue en 2008 aux éditions Robert Laffont et sobrement intitulée « Le désespoir des singes et autres bagatelles ».
Les questions pour Alain Baraton sur le site de l'émission. Vincent, je souffre depuis quelques années d'anosmie, c'est-à-dire perte plus ou moins totale d'odorat. Or, l'odeur est un critère très important afin de différencier la carotte sauvage de la ciguë, mais aussi du cerfeuil ou du persil. Comment distinguer ces plantes ?
J'ai un petit peu l'impression d'être un pharmacien qui aurait devant lui un ramasseur de champignons, qui aurait ramassé tous les champignons et le cueilleur lui demanderait « Dites-moi docteur, lequel puis-je manger et lequel ne... » Non, quand on n'est pas capable de distinguer avec certitude, on laisse sur place, on ne consomme pas, on regarde et on ne cueille pas. On ne joue pas avec sa santé, on ne joue encore moins avec la santé des autres. Donc si on ne sait pas, on ne cueille pas. Et vous qui aimez les jolies citations, Pierre, à mon tour d'en faire une ce matin en réponse à votre question. C'est Théodore Monod qui était un homme extraordinaire qui disait « Qui cueille une fleur dérange une étoile, et bien qui cueille une plante dérange une étoile ».
Une question de Louis, mes rosiers promettaient une magnifique floraison. Quelle ne fut pas ma surprise de constater un matin que tous les boutons floraux avaient été sectionnés, ceux-ci avaient disparu. Pouvez-vous me donner des explications ?
Il y a dans le jardin un insecte qui enfant me fascinait, c'est la cétoine dorée. Alors vous l'avez peut-être, vous n'êtes pas de la même génération que moi, je suis un peu plus âgé, mais on s'amusait à les attraper dans le jardin, c'était terrible. On les piquait sur des bouchons et la bestiole séchait et on pouvait ainsi la contempler. C'était absurde, mais à l'époque qu'on ne nous disait rien. Mais j'ai gardé de cet insecte une vision extraordinaire. Il a une couleur bleu-vert métallisée, sublime. Il a un seul défaut, voyez-vous, c'est de couper les boutons des roses. Il s'agit de la cétoine dorée, mais je vais être très clair. Cet insecte est tellement beau qu'il vaut bien quelques sacrifices.
Je me souviens d'un insecte dans l'est de la France, il y a très longtemps, le hanneton. Ça existe
pareil,
encore.
On les guettait, on les voyait sortir, souvenez-vous. On les voyait sortir des chemins au printemps, en été.
Absolument.
On en voit de moins en moins. C'est extrêmement grave parce que la cétoine dorée, elle se sert également parfois de déchets végétaux. Elle contribue à ce que l'on appelle la biodiversité. Alors oui, c'est gênant d'avoir quelques roses de coupées, mais c'est pas non plus un drame.
Catherine, elle nous écrit, on m'a offert il y a 3 mois un camélia en pot. Je l'ai rempoté dans un pot un peu plus grand, garni de terre de bruyère et mis à l'extérieur. Comment expliquer qu'il est au même stade, c'est-à-dire en bouton?
Tout simplement, il y a une chose qui est très amusante avec le camélia. On pense que c'est une plante de terre de bruyère. Le camélia a besoin aussi de terre végétale. C'est un mélange subtil. Deuxièmement, on parle du froid. À croire que le camélia est une plante qui redoute le gel. Pas du tout. Le gel, moins 10 degrés, le camélia s'en rigole. Mais le camélia originaire des coteaux d'Asie a besoin d'humidité. Il faut donner un coup de pulvérisateur et de l'eau pour que l'atmosphère soit humide et permette l'éclosion ensuite. Comment dire, du bouton. Et enfin, si on l'avait rempoté dans un pot à peine plus grand, les racines se seraient moyennement développées. Et là, on lui met tellement de terre qu'il est content. Il se développe de manière forcenée, et ce, au détriment des tiges, des feuilles et des fleurs.
Et maintenant, Patricia, avec Alain Baraton, une idée de promenade.
Une idée de promenade, oui, c'est
bien,
ça.
On va y aller ensemble. Les fêtes des plantes de Chantilly, c'est le rendez-vous incontournable annuel. En région parisienne, c'est dans l'Oise, l'occasion de découvrir des centaines d'exposants.
Il faut
de
un chapeau là aussi, comme hier.
Non, mais ça serait très chic, je trouve.
Bon,
et vous avez, Patricia, une tête à porter les chapeaux, j'en suis convaincu. Vous aussi, Pierre, d'ailleurs.
Alain Baraton, La Main Verte, rendez-vous le week-end prochain avec Éric Delvaux.